189.
Amen.
Pleurez avec les secours de l'esprit et la grâce du Seigneur, faites suite à ce que nous avons chanté dans le premier cantique. Vous avez remarqué ce cheminement de la grâce de Dieu. Au départ, pendant et à l'arrivée de notre course chrétienne. Et tout d'abord, le rappel d'un seul verset en Hébreu 13. En Hébreu 13, nous lisons le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le cheminement de l'amour et de la grâce de Dieu. Au travers de celui qui est venu du ciel, prendre en main la cause des perdus, et tels nous sommes tous dans notre nature, c'est évident. Mais n'allons pas penser que sa présence sur la terre, vue comme un homme au milieu des hommes, lui enlève quoi que ce soit dans ce qu'il est depuis toujours et pour toujours. D'où ce mot de l'Épître aux Hébreux, Épître qui a dépeint devant nous différentes gloires du Seigneur, d'où ces mots, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Son amour, mes amis, est le même aujourd'hui à Saint-Sauveur qu'au jour où ses mains ont été percées à Golgotha, au jour où il s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il nous faut prendre conscience de cela et que dans nos cœurs, il y a ce sentiment profond, vrai, de reconnaissance et d'adoration. Il est le même hier, au jour où il a dit « je viens », au jour où il a été élevé de la terre sur la croix, au jour où il a rencontré tant de maux, tant de misères ici-bas, au jour où il a été élevé dans la gloire, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Quel sauveur que le nôtre! Et en regard du cantique indiqué, j'aimerais rappeler un mot de Genèse 48. À la fin de sa vie, Jacob a un mot remarquable. Après une vie n'a pas toujours été à la gloire de son Dieu. Vous savez qu'il y a eu un contact particulier 7 ans avant son départ et dans la bénédiction prononcée sur les fils de Joseph. Nous lisons en Genèse 48 ce mot remarquable. Au milieu du au verset 15, il bénit Joseph et dit « Que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, l'ange avec majuscule qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes hommes et qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils croissent pour être une multitude au milieu du pays. » Quelle parole que celle-là! Dans la bouche, et je dirais, dans le cœur de ce patriarche, qui a eu une vie bien partagée entre le matériel et le spirituel. Mais voilà qu'un jour, et vous connaissez ce passage, je m'adresse ici à des aînés, vous savez qu'un jour il y a eu un contact particulier avec Dieu lui-même. Nous avons cela en Genèse 32. Un contact heureux où Jacob a eu une hanche luxée, mais où il a commencé à marcher à la gloire de son Dieu. Je veux lire le passage simplement, pour ne rien enlever en le citant. En Genèse 32, au verset 31, je crois, c'est un moment particulier dans la vie du patriarche. Nous lisons en effet verset 30, « Et Jacob appela le nom du lieu Péniel, car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée, et le soleil se levait sur lui, comme il passait Péniel, et il boitait sur sa cuisse. » Mais c'est depuis ce jour-là qu'il a, permettez l'expression, bien marché. Il a eu cette rencontre particulière avec Dieu, et l'Écriture de souligner le soleil se levait sur lui lorsqu'il passait Péniel. J'aime à penser que pour nous tous, cette expression prend une signification particulière et profonde. J'aime à penser que sur nous tous, le soleil s'est levé, que nous appartenons au Seigneur, bien sûr, et que nous faisons l'expérience de ce cheminement de la grâce à notre endroit. Et il est très beau de lire ce passage de Genèse 48, où alors Jacob est amené à demander la bénédiction divine sur les fils de Joseph. Et il est très beau ce passage, selon ce que nous avons chanté, où il peut dire « Le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger, remarquons les expressions, mon berger, le mien, depuis que je suis jusqu'à ce jour, l'ange avec majuscule qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes hommes. » Remarquons ce langage, chers amis. Nous sommes pour la plupart ici des aînés. Ne pouvons-nous pas dire Amen à un tel passage? Parler de celui qui nous aime, qui un jour a été élevé de la terre sur la croix à cause de nous, qui a dû s'écrier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» parce qu'il rencontrait là la colère divine contre le péché. Nos cœurs ne seraient-ils pas sensibles à un tel rappel? Et réalisant que depuis ce contact, depuis cette rencontre, il a été ce berger, le nôtre, qui a pris soin des siens, quels que soient les obstacles de la route, quels que soient les détours du chemin, celui qui a été mon berger. Et ce n'est pas tout. Que ces jeunes soient appelés de mon nom, du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et qu'ils croissent pour être une multitude au milieu du pays. Il y a là tout un enseignement, nous le comprenons. Il est peut-être facile, dans un sens, de dire Jésus est mon sauveur. Je porte mes pas vers la maison du Père. Je sais que là-haut des places ont été préparées. Je suis attendu. Je suis aimé. Mais le danger, c'est que nous nous complaisons dans cette assurance et nous n'avons pas le désir de croire, comme dit l'apôtre Pierre à la fin de sa deuxième épître au chapitre 3, croire dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et dans la demande de Jacob à l'endroit des fils de Joseph, il y a ici un enseignement particulier et quelque chose qui doit rester sur nos cœurs vis-à-vis de ceux qui nous suivent, petits et grands. Le désir de Jacob, vous l'avez remarqué, pour qu'il croisse, pour être une multitude au milieu du pays. Nous risquons, mes amis, d'être tellement satisfaits de ce que nous avons dans le Seigneur, nous risquons de rester comme en frontière et de ne pas croître dans cette grâce et dans cette connaissance du bien-aimé. Alors, nous le rappelions hier soir avec le psaume 84, qu'il y a une marche de force en force, qu'il y a un sentier où la lumière va resplendissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. C'est Proverbe 4, 18 qui nous dit cela. Jacob demande que ses petits-enfants croissent et il parle pour être une multitude au milieu du pays. Oh, mes amis, il y a là tout un enseignement pour nous. Bien sûr, ce désir d'avancer, ce désir de communion avec le Seigneur, ce désir d'une croissance normale, ce désir d'un avancement spirituel, ce désir aussi d'être utile à ceux de nos familles, à ceux que nous contactons jour par jour. Et j'aimerais rappeler à ce propos le début du livre de Josué, celui qui a appris de bonheur à connaître son Dieu, celui qui a eu des contacts particuliers avec son Dieu par le moyen de Moïse qui était là. Il y a des expressions dans le premier chapitre de Josué qui sont précieuses pour nous, les aînés, comme pour les plus jeunes, bien sûr. Dans le début de ce livre de Josué, et le cantique m'y a fait penser, il arriva, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, disant, Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Et remarquons ce verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. Vos frontières seront depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse ainsi, je serai avec toi, je ne te laisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Verset 9. Fortifie-toi, sois ferme, ne te laisse point terrifier, ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Chers amis, il y a dans ces passages un enseignement, mais aussi un encouragement particulier à vivre un vrai christianisme, à vivre ce que nous avons chanté dans le premier cantique. Moïse, mon serviteur, est mort. Mais toi, Josué, toi qui as été élevé, qui as été enseigné dans ces choses, toi qui as été observé par Moïse, toi qui as combattu Amalek, en Exode 17, toi qui es monté sur la montagne, toi qui as su ce qu'était l'attente d'assignation, ce que c'était que d'être formé, préparé, là dans cette tente. Toi, Josué, qui avec Caleb, en nombre 14, avait fait face au peuple qui allait vous l'amener, eh bien, maintenant, tu vas faire entrer ce peuple dans des bénédictions particulières. Pour nous, bien sûr, ce début du livre de Josué, c'est l'épître aux Éphésiens. C'est l'entrée dans des bénédictions spirituelles suite à l'œuvre de Christ, que chacun le comprend. Ici, les questions du matériel, on entre dans le pays promis, mais il y a une relation qui fait du bien à nos cœurs dans la transposition des bénédictions. Mais le mot auquel j'aimerais m'arrêter un peu, c'est ce verset 3, déjà le verset 2. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays. Et ce verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Le Seigneur nous appelle, mes amis, à réaliser ce cheminement dans la vie chrétienne, cette croissance. Ce que nous avons rappelé au travers de ces quelques passages, à savoir de Pierre 3, et Proverbe 14, 18, Psaume 84, verset 7, cette marche ascendante, cette marche de force en force. L'apôtre Paul même allait plus vite, puisqu'il dit courant droit au but. Course chrétienne, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Or, mes amis, nous portons nos pas vers la maison du Père. Mais chaque pas dans la vie chrétienne, s'il y a communion, contact avec le Seigneur, nous amène à réaliser plus avant, plus profondément, vraiment, ce qu'est cette présence. Ce qu'est ce contact, ce qu'est une telle personne, une telle grâce, une telle loi. C'est pourquoi ce mot que nous avons ici, maintenant, lève-toi, prend pour nous chacun une signification particulière. En face d'un monde qui va à la dérive, en face de l'incertitude, en face de l'anxiété, en face de la violence, est-ce que le Seigneur ne nous demande pas, nous qui avons été enseignés d'une façon particulière, précieuse, ne nous demande-t-il pas de faire en vie
à ceux qui nous entourent.
Ne nous demande-t-il pas de prendre acte
plus avant, plus profondément, de ce que sont nos privilèges et de ce que sont nos responsabilités? Suis-je en bénédiction pour ceux de ma famille,
pour mes frères, pour mes sœurs dans l'assemblée locale?
Suis-je en bénédiction pour ceux que je salue sur la rue? Maintenant, lève-toi. Sois mon témoin dans ce monde où tout passe, je le répète, dans ce monde de violence, d'anxiété, d'incertitude, ce monde de pourquoi et de problèmes. Maintenant, lève-toi. Oh, mes amis, levons-nous, car voici notre maître, dit aussi attentif. Mais tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. C'est ce verset 3 qui est une merveille qui nous arrête. Autrement dit, pour avancer dans les bénédictions spirituelles, j'aime être simple, il faut l'énergie de la foi. Il ne faut pas être satisfait et de tout ce que nous avons par la grâce de Dieu, de cette musique tellement heureuse et précieuse que nous connaissons depuis notre enfance. Il faut avancer, entrer plus avant, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Et nous ne sommes pas étonnés, mes amis, qu'il y ait là quatre frontières rappelées dans la suite du passage, bien sûr. Une première frontière, le désert. Vos frontières seront depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couché. Ah, le désert! Pourquoi le désert est-il une frontière? Parce que le désert rappelle ce qu'est le monde, ce qu'est la stérilité, ce qui est improductif. Quand on a quitté le désert de ce monde, quand on a appris à connaître le Seigneur, on ne retourne pas au désert. C'est une frontière. Il y en a une deuxième, permettez que je passe rapidement. C'est le Liban. Le Liban qui, à certains endroits, nous dit des choses heureuses. Il y avait là des beaux cèdres. Ils étaient connus. Le Liban était renommé. Mais, il y avait là aussi un danger d'orgueil. On s'enorgueillissait, et parce que, précisément, il y avait là des beaux cèdres. Et quel que soit notre âge, mes amis, l'orgueil nous guette, ne l'oublions jamais, jamais. Il est si facile de dire « je ». Il est si facile de dire « moi, je ». Ah, l'orgueil nous guette. C'est une frontière. Il y en a une troisième, le grand fleuve. De quoi nous parle le grand fleuve? Je ne touche que quelques pensées que j'ai retenues de nos frères il y a fort longtemps. Le grand fleuve nous parle d'un courant particulier, le courant de ce monde. Le grand fleuve nous parle aussi de ce qui est matériel. Et combien nous avons besoin d'être gardés pour faire des progrès dans la grâce et la connaissance du Seigneur, besoin d'être gardés de ce courant et de ce qui est matériel. Et puis enfin, il y a une quatrième frontière, c'est la grande mer. Oh mes amis,
De quoi nous parle la grande mer,
si ce n'est de cette agitation qui marque le monde du XXe siècle, qui marque nos jours d'une façon toute particulière. Alors que le Seigneur nous demande de montrer à l'évidence ce qu'est la paix du cœur qu'il donne. Cette paix dans les circonstances, après nous avoir donné la paix de la conscience, bien sûr, ne laissons rien de côté. La première étape, c'est la paix de la conscience. Et j'aime à penser que tous ici, nous connaissons le Seigneur, que nous nous sommes arrêtés un jour devant la croix et que nous avons avancé notre main pour saisir la sienne, percée mais puissante pour délivrer. J'aime à penser que nous sommes venus chacun à lui en lui disant « Agneau de Dieu, tel que je suis, je viens à toi ». L'anxiété en face de la violence. Il y a des passages dans le livre d'Ésaïe qu'il faudrait souligner, qu'il faudrait relire souvent dans le temps auquel nous sommes parvenus. Deux fois, dans Ésaïe, il est dit que les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se tenir tranquille. Qu'il me soit accordé, qu'il nous soit accordé de faire un contraste absolu avec ce qui est rappelé là. Dans le 52 d'Ésaïe, je crois, je ne sais pas si je retrouverai le passage, 57, mais à la fin du 57, verset 21, il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Ce que nous avons aussi au chapitre 48, je crois, voyez l'insistance de l'Esprit de Dieu. Au chapitre 48e, au verset 22, il n'y a pas de paix, dit l'Éternel, pour les méchants. Et au chapitre 17 de cette même prophétie d'Ésaïe, il y a encore un passage à considérer où il est parlé des méchants qui sont comme la mer, verset 12. Malheur à la multitude de peuples nombreux, ils bruissent comme le bruit des mers, et au tumulte des peuplades, ils s'émeuvent. En tumulte comme le tumulte de grosses eaux. Il y aurait tant de passages à citer, bien sûr. Eh bien, mes amis, qu'il nous soit accordé la grâce de montrer ce que c'est que la paix du cœur dans les circonstances, dans la vie de tous les jours, dans les circonstances qui marquent de notre passage ici-bas, et quelle grâce quand il y a la paix dans les familles. La famille, cellule précieuse, quant à l'assemblée. J'entends encore un cher frère de votre pays nous dire, mais si ça ne va pas dans une assemblée, allez voir dans les familles. Que le Seigneur m'accorde, nous accorde, d'être ces instruments de paix en face de la violence, en face de la fièvre qui marque notre siècle. Et ce n'est pas à l'aventure, mes amis, que dans le psaume 34 déjà, au verset 14, sauf erreur, il y a deux expressions. Il faut chercher la paix. Il faut la poursuivre. Un frère disait, j'étais tout jeune garçon, il faut souvent poursuivre ce qui nous fuit et fuir ce qui nous poursuit. Pensons à notre nature. Chercher la paix, la poursuivre. C'est important pour que l'Assemblée rende un témoignage vivant à la pleine suffisance du beau nom de Jésus. C'est dans Matthieu 5, vous connaissez ces passages où il y a plusieurs bienheureux. Il y a ceux qui procurent la paix. Bienheureux ceux qui procurent la paix. C'est peut-être le verset 9 de Matthieu 5. Dans le psaume 122, il est question de Jérusalem, mais Jérusalem est l'emblème d'une harmonie. Il est dit « Demandez la paix de Jérusalem. Ceux qui t'aiment prospéreront. » Quel passage, bien-aimé, quel passage. Et c'est dans le livre de Zacharie, pour ne citer que quelques passages, que nous avons au chapitre 8, ces mots prononcés des jugements de paix. Et au verset 19, aimez donc la vérité et la paix. En face de la grande mer, où il y a le bruit des méchants, oh, que nous soyons des témoins pour l'homme débonnaire et humble de cœur, le Fils de Dieu, celui qui s'est fait homme pour souffrir et mourir sans cesser d'être Dieu. La grande mère. Et alors suivent des instructions et des encouragements. J'aimerais aussi les laisser sur nos cœurs, chers amis. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des témoins, voire des ambassadeurs pour Christ et des collaborateurs de Dieu sans nous faire part de ses promesses qui sont précieuses. Il dit à Josué au verset 5 à la fin, « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et ce qui précède, « Je serai avec toi. » Remarquons ces paroles. « Je serai avec toi. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Quel que soit ton âge, quelles que soient les infirmités de l'âge, quels que soient les problèmes du moment. Une chère sœur à son lit de mort me disait, je lui ai coûté trop cher. Il ne peut pas me laisser à l'aventure. Je lui ai coûté trop cher. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. J'aimerais, chers amis, que ce mot qui nous dit quelque chose de la sacrificature de Christ, nous encourage. Nous qui, pour la plupart ici, sommes des aînés dans la vie des familles et des assemblées, je ne te laisserai point. Ne crains point, car moi je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Ésaïe 42, 10. Oui, je t'aiderai, oui. Comme si ce n'était pas suffisant de dire je t'aiderai, oui, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. Et au verset 13 d'Ésaïe 42, le rappelle encore une fois, je te soutiendrai. Or, mes amis, j'aimerais tellement que cette rencontre autour du Seigneur, chez le Seigneur, soit un encouragement pour chacun de nous. Nous en avons besoin. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et cela est même rappelé encore à la fin des Hébreux, au chapitre 13. De sorte que nous disions, l'Éternel est mon aide. Que me fera l'homme? celui qui nous porte sur son cœur devant Dieu continuellement, c'est notre sauveur. C'est celui qui a mis sa vie pour nous. C'est celui qui va nous introduire là où il n'y a plus de pleurs, plus de pourquoi, plus de deuil. La vallée de Baca, c'est fini. C'est la gloire dans la maison du Père. Oh, mes amis, puisons largement et toujours aux ressources infinies qui sont contenues en lui. En lui, qui a pu dire à son esclave Jean, j'ai été mort, mais je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du Hadès. C'est pourquoi le psalmiste peut dire même, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Dans les premiers versets du psaume 23, le psalmiste a dit « Il est, il est, il est ». Et tout à coup, dans une communion plus précise, « Tu es avec moi ». Ce sont des passages précieux pour nous qui arrivons déjà dans un âge avancé. Tu es avec moi. Je sais, comme dit Job, que mon Rédempteur est vivant. Je sais que tu peux tout. Et l'Ecclésiaste, dans son chapitre 8 et dans son verset 12, je sais que toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et l'apôtre nous dira plus tard, je sais qui j'ai cru, j'ai appris, je sais, je suis enseigné, je puis toutes choses en celui qui me fortifie. J'aimerais, en terminant, Novella, rappeler la fin du psaume 92. Réalisant que nous sommes tous plus ou moins dans les années maintenant, il y a trois versets qui sont précieux et qui nous parlent de ce cheminement du premier cantique que nous avons chanté. Nous les avons peut-être cités à l'occasion ici. Ce sera une répétition, mais il y a des répétitions qui sont heureuses. Psaume 92, nous lisons au verset 12. Le juste poussera comme le palmier, il croîtra comme le cèdre dans le Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse. Ils seront pleins de sève et verdoyants, afin d'annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a point d'injustice en lui. Le juste, le croyant, il est comme le palmier. Pourquoi est-ce qu'il y a dans ce psaume une telle comparaison, mes amis? Le juste poussera comme le palmier. Le palmier nous fait penser à ce croix. Le palmier nous fait penser aussi à ce qui est toujours vert. Là où d'autres arbres sèchent, le palmier reste vert. Pourquoi? Parce que ses racines sont profondes. Et nous rejoignons par là le 12 des Proverbes. Il est dit que à la racine du juste n'est pas ébranlée, et où il est dit aussi qu'elle est productive.
Le palmier nous enseigne aussi, parce qu'il résiste aux orages, on voit rarement un palmier cassé. Image du croyant qui, avec les ressources de la grâce, est là et tient là, témoin de la grâce et de la puissance de Dieu. On voit rarement un palmier cassé. Il supporte l'épreuve. Et ce qui est très beau à propos du palmier, c'est un frère de chez vous qui me le rappelait il y a fort longtemps, c'est que la sève n'est pas sous l'écorce, elle est à l'intérieur du tronc. Belle image de la vie de l'Esprit, de la vie de Christ dans le croyant. Et le palmier nous rappelle encore une vie de victoire chez le croyant. On semait des palmes, vous le savez bien, sur le chemin des vainqueurs. On en semait à une certaine occasion sur le chemin du Seigneur en criant « Hosanna ». Le juste poussera comme le palmier. Et il est dit, il croîtra comme le cèdre dans le Liban. Pourquoi est-ce que le croyant, vous et moi, pourquoi sommes-nous comparés au cèdre? Le cèdre est connu à la longueur de ses branches, autrement dit, à un rayonnement particulier. C'est important tout ça. Est-ce que je suis connu au travers de ce rayonnement? C'est important cela, c'est capital. Ou bien je fais envie, ou bien je fais pitié. Le rayonnement du cercle, mais le rayonnement du croyant. Et ce que j'ai pu remarquer, mes amis, dans le sud-ouest en particulier, de votre pays, c'est que presque tous les cèdres ont le sommet incliné du côté du soleil levant. Et c'est une belle image du croyant qui lui aussi a le regard tourné vers celui qui est l'Orient d'en haut, l'Orient d'en haut qui nous a visités. Et puis ce passage, ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Quelle expression heureuse, encourageante, au travers de tout, quel que soit notre âge, quelles que soient les infirmités de l'âge, quels que soient les problèmes, je le répète, ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Et puis, ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse. Ils seront pleins de sève et de verdoyants. Quelle grâce qu'il y ait parmi nous des aînés qui, attachés au Seigneur, attachés à l'Assemblée, joignent les mains et qui intercède, et qui supplie le Seigneur pour qu'un témoignage vivant soit rendu à la pleine suffisance de son beau nom, ce nom qui est invoqué sur nous. Ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse. Que le Seigneur me l'accorde, qu'il nous l'accorde, bien aimé, afin d'annoncer que l'Éternel est droit, il est mon rocher, il n'y a point d'injustice en lui. Nous sommes appelés à être des témoins, que ceux qui sont avec nous autour de nous réalisent ce que c'est, que la joie, que la paix du cœur, quand on connaît Jésus, quand on attend Jésus,
quand le regard se porte vers celui qui a dit « Fin du livre, trois fois, je viens bientôt, bientôt. »